C'est un événement pas banal et pas ordinaire qu'il nous est donné aujourd'hui de vivre dans notre diocèse et ici dans cette belle cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Et je vois qu'en ce lundi de Pentecôte après-midi, qui pour certains est férié, vous êtes venus nombreux, très nombreux, pour entourer notre chère sœur Rachel Coralie Sonal, au jour de son mariage. Et je suis heureux d'accueillir avec affection les vierges consacrées qui l'entourent particulièrement, celles de notre diocèse, celles d'autres diocèses et d'autres encore qui sont unies dans la prière et l'action de grâce avec nous aujourd'hui. Car c'est bien d'un mariage qu'il s'agit. À travers ce rite de la consécration des vierges, notre sœur Rachel va être aujourd'hui établie, constituée, consacrée comme épouse du Christ. Ce à quoi elle se prépare à travers un long accompagnement, un long discernement depuis des années. Le Seigneur va consacrer son ferme propos de vivre de manière définitive dans la chasteté parfaite. Je ne devrais dire pas seulement chasteté parfaite, parce que si la chasteté est une vertu, elle est nécessairement parfaite dans tous les états de vie, y compris dans le mariage. Mais il faut ajouter ici la chasteté parfaite dans la continence parfaite, se réservant tout entière corps et âme pour son unique époux, le Christ. Et c'est le Christ qui l'appelle, sa bien-aimée, comme toutes les vierges consacrées en font l'expérience chaque jour depuis leur consécration dans l'ordre des vierges. C'est sa bien-aimée. Et il veut en faire aujourd'hui, de manière officielle et publique, son épouse. Il n'y a pas de profil type de vierge consacrée. La seule réalité profonde et mystérieuse qui les réunit, c'est ce ferme propos consacré par l'Église de vivre dans la continence et la chasteté parfaite pour le Christ. Chacune, vivant dans le siècle, dans le monde, déploie un charisme particulier, ce qui fait qu'il y a autant de charismes de vierges consacrées qu'il y a de vierges consacrées, précisément. C'est magnifique parce que c'est l'aboutissement d'un long chemin, d'un long cheminement, qui n'a pas toujours été en ligne directe, mais qui vient du cœur de Dieu. Vous connaissez sans doute ceux qui font quelques études de théologie morale, je parle sous couvert d'un grand professeur de théologie morale, ce principe de l'agir moral qui nous est donné par saint Thomas d'Aquin dans son grand traité de la fin dernière, de la moralité, où il nous dit que la fin que nous visons, si elle est dernière dans l'exécution, elle est première dans l'intention. Car nous agissons toujours en vue d'une fin. Et pour qu'elle se réalise, il faut qu'elle soit d'abord dans notre cœur. Elle était d'une certaine manière déposée, cette intention de la virginité consacrée, dans le cœur de notre, alors Coralie, qui n'a pas saisi tout de suite la teneur de cette intention divine qui était dans le cœur de Dieu. Ce fut une belle rencontre qu'elle m'a racontée, car je connais sœur Rachel depuis plus de 10 ans. C'est l'une des premières jeunes que j'ai rencontrées lorsque je suis arrivé dans ce diocèse, car avec un petit groupe de jeunes, on faisait à l'évêché le dimanche soir, ça durait pendant 2 ans, je crois, une scrutation de la parole de Dieu. Et c'est là que je l'ai rencontrée, régulièrement déjà. Tout s'est passé dans une église de sa paroisse, Saint-Michel Garicoïts du Labour, Cambeau. Je salue Monsieur le curé de Cambeau après son pèlerinage à Notre-Dame-de-Lubépine ce matin, qui est encore parmi nous cet après-midi. Dans l'église d'Espelette, que tout le monde connaît à cause du piment sans doute, mais que tout le monde connaît aussi parce que c'est la patrie de notre cardinal Roger Etchegaray. Après avoir entendu la messe, elle entre dans l'église d'Espelette. Elle se trouve au pied de l'autel. Elle prie devant Jésus qui est caché dans le tabernacle, comme elle en avait déjà l'habitude. Elle a 21 ans. Et dans sa prière, depuis le tabernacle, elle comprend, elle ne l'entend pas avec ses oreilles, mais elle comprend que Jésus lui demande « Veux-tu renoncer au mariage pour moi ?» Ce qui vient un peu déstabiliser ses plans et ses projets, car elle se sentait appelée au mariage, mariage chrétien sans doute, mais au mariage. « Veux-tu renoncer au mariage pour moi ?» Et c'était tellement imprégné dans son cœur qu'elle prend un peu peur sans doute. Elle voit le portrait de Saint-Michel Garicoïts, qui est dans toutes les églises de la paroisse Saint-Michel Garicoïts du Labour Cambeau. Et ça n'est pas indifférent, parce que vous savez bien que la grande devise de Saint-Michel Garicoïts, c'est « Unani » en basque, « Me voici », sans retard, sans réserve, sans retour, par amour pour la volonté de mon Dieu, qui rejoint cette « Ecce Venio » du Verbe de Dieu, entrant dans le monde par l'action de l'Esprit Saint, dans le sein virginal de Marie. Tu n'as voulu ni holocauste, ni oblation, mais tu m'as donné un corps. Et moi j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, auquel répond simultanément l'Ecce Ancilla Domini de la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il y a un petit temps d'apnée là. Et elle sent dans son cœur que Jésus attend une réponse. C'est le 23 février 2007, il y a 12 ans, un vendredi de carême, où l'on fait mémoire dans l'église de Saint Polycarpe, disciple de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Et elle se sent pressée de dire oui contre toute attente et contre son désir intime. Alors Jésus vient habiter en elle par une grâce de consolation, une grâce de paix, une grâce qui lui fait faire l'expérience de son amour. Voilà où a commencé ce chemin, l'intention de Dieu qui n'était pas encore bien précisée dans son âme. Elle va commencer à vivre cette vie de prière avec le Christ qui est en elle. Elle se rendra même en Terre Sainte pendant une année où elle fera l'expérience de cette prière solitaire accompagnée auprès des moniales de Bethléem, aumôniales de Bethléem de Beth-Gémal, mais aussi des carmélites de Bethléem. Puis, son chemin la conduira à la communauté des frères et des sœurs du Carmel de la Vierge missionnaire, où elle fera un postulat, où elle fera un noviciat. Mais il faut croire que ça n'était qu'une étape dans le discernement de cette intention qui est dans le cœur de Dieu et qu'il a déposée à travers son oui qu'elle a prononcé dans l'église d'Espelette. Car le Seigneur la veut ailleurs. Elle revient sans savoir encore. Elle trouve un prêtre pour l'accompagner spirituellement, l'abbé François de Mesmé, ici présent. Nous sommes en 2014. Le Seigneur lui inspire le désir d'une consécration privée entre les mains de son Père spirituel avec ma bénédiction d'évêque. Et puis, il y a 4 ans maintenant, lui apparaît clairement dans son discernement que le Seigneur l'appelle dans l'ordre des vierges consacrées. Et elle commence à vivre une forme de vie dans le monde comme une épouse du Christ, dans la prière, dans le témoignage, au sein d'une communauté locale qui est la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Assomption Bayonne, à l'ombre de la cathédrale près de laquelle elle réside. C'est pourquoi nous sommes ici, en ce siège de l'évêque, cette église mère de notre diocèse, au jour où elle est consacrée comme épouse du Christ qui accomplit cette intention qui était déjà présente dans le cœur de Dieu et dans son cœur, et qui s'accomplit aujourd'hui de manière officielle, de manière sacramentale, pour ne pas dire sacramentelle. Une Vierge consacrée qui est appelée à participer à la mission de l'Église à travers son charisme propre et son état de vie propre, elle qui devient comme l'image de l'Église, collaborer à la mission de l'évêque et des prêtres qui est d'enfanter les âmes au Christ ou de former le Christ dans les âmes, comme dit saint Paul, pour caractériser ce qu'est la mission pastorale de l'Église inhérente au pasteur. Une collaboration importante, et vous le comprenez bien, et ça n'est pas indifférent si la date que nous avons choisie pour cette consécration est le lundi de Pentecôte, qui est devenu depuis l'an dernier, par volonté expresse du Saint-Père, le pape François, l'inscription dans le calendrier liturgique de la mémoire de Sainte Marie, mère de l'Église, déclaration officielle que le Saint-Père Paul VI fit au terme de la troisième session du Concile Vatican II, alors qu'il venait à peine le 21 novembre 1964, en la fête de la présentation de Notre-Dame, de promulguer la constitution dogmatique sur le mystère de l'Église, Lumen Gentium, qui se termine par un beau 8e chapitre sur la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. En surprenant tous les pères du Concile, il décide, motu proprio, de déclarer Marie, Mère de l'Église, Mère du peuple de Dieu tout entier, non seulement des pasteurs, mais aussi des fidèles, soulignant ainsi ce que le Concile dans Lumen Gentium avait remis au jour, que l'Église n'est pas une administration, l'Église n'est pas seulement une société parfaite, l'Église n'est pas seulement une organisation, mais elle est un organisme vivant. Elle est le corps mystique du Christ, dont il est la tête et dont nous sommes les membres, et dont l'âme est l'Esprit Saint. Marie, qui est la mère de la tête, le Christ, est la mère du corps, l'Église. Elle qui avait présidé à la naissance du Verbe incarné, incarné dans son sein virginal par l'action de l'Esprit Saint, au jour de l'Annonciation, préside à la naissance du corps mystique du Christ qu'est l'Église, qui se déploie dans le monde à travers l'annonce de l'Évangile depuis le jour de la Pentecôte, que nous venons à peine de célébrer hier. Depuis la réforme liturgique, on entre un peu brutalement, n'est-ce pas, après les fastes du temps pascal et de la beauté de cette effusion d'Esprit Saint de Pentecôte dans le temps ordinaire, pouf, dès le lundi. Autrefois, il y avait une octave pour digérer et amortir le choc. Aujourd'hui, il y a la douceur de Marie, en ce lundi de Pentecôte, pour nous faire entrer dans le temps dit ordinaire, qui n'est autre que le temps de l'Église qui se déploie jusqu'aux extrémités de la terre et du temps, pour annoncer l'Évangile. Marie est la Vierge consacrée par excellence. Marie qui est à la fois Vierge et Mère, dont la virginité est tellement féconde. Elle qui, au pied de la croix, reçoit cette mission de Jésus lui-même de devenir notre Mère. Voici ta Mère, voici ton Fils. Et à partir de ce moment-là, le disciple bien-aimé, Jean, l'a pris chez lui, comme nous voulons l'apprendre toujours plus chez nous, dans notre intimité, notre mère, dont nous avons tant besoin. Elle présidait la naissance de l'Église, elle qui priait ardemment au Cénacle, disposant le cœur des apôtres et des disciples, hommes et femmes, rassemblés autour d'eux, pour accueillir le don de l'Esprit-Saint. Mais elle n'est plus encore la nouvelle Ève, comme nous l'avons entendu, n'est-ce pas, dans le livre de la Genèse. Ève qui veut dire la vivante, parce qu'elle sera la mère de tous les vivants. Marie, au pied de la croix, est la nouvelle Ève, comme l'Église. Elle est la figure de l'Église. Elle est la première Église. L'Église qui naît du côté transpercé de Jésus à travers l'eau et le sang qui ont jailli, l'économie des sacrements, le baptême et l'Eucharistie, comme Ève avait été tirée du côté endormi d'Adam au commencement de la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est mystérieux cela, écoutez-moi jusqu'au bout. Marie est la fille du Père. Elle est la mère du Fils. Elle est l'épouse de l'Esprit-Saint. Et pourtant, au pied de la croix, comme nouvelle Ève, alors que le nouvel Adam est le premier de toute créature, elle entre dans une relation avec Jésus, son Fils, qui est d'ordre nuptial. Ça ne peut se comprendre que mystiquement, dans le mystère de Dieu. Ne transposons pas à partir de nos critères humains ce que cela veut dire pour Marie et Jésus. Alors nous affleurons le scandale. Mais Marie s'unit par toute sa virginité consacrée. Elle rejoint la virginité du Christ qui s'est réservée tout entier dans la chastité parfaite, la continence parfaite pour cette unique oblation de son corps qui enfante les âmes au Christ et qui sauve le genre humain. Elle s'unit de toute elle-même à cette offrande de son Fils, la nouvelle Ève qui s'unit au nouvel Adam. Elle offre au Père l'offrande de son Fils. Elle s'offre avec lui et elle devient la mère du genre humain. Elle participe à l'enfantement des âmes au Christ. Grand mystère, n'est-ce pas ? Ce mystère, je le dis de Marie, je le dis de l'Église, et je le dis de cette vocation très spécifique, chère sœur, Vierge consacrée, qui est l'ordre des Vierges consacrées. Sœur Rachel, tu es appelée à devenir une épouse du Christ, à te tenir au pied de la croix, dans la prière et dans l'offrande, pour t'offrir avec Jésus, qui culmine bien sûr dans la participation à la Sainte Eucharistie, où le sacrifice unique de Christ est rendu présent pour le salut du genre humain tout entier. Nous t'entourons de toute notre prière, de toute notre affection, qui n'est pas seulement notre prière et notre affection, mais qui est celle de l'Église, l'épouse du Christ, dont tu es appelée à devenir une image humble, humble, réservée, parce que la Vierge Marie, parce que l'Église est pleine de réserve devant son époux, le Christ, avec lequel, dans une union mystique, elle est appelée à enfanter les âmes au Christ. Amen.